Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. C'est l'avant-dernier livre du Nouveau Testament et de la Bible, juste avant le livre de l'Apocalypse. Lettre de Jude. Ils vont lire toute cette lettre et nous concentrer sur les premiers versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qu'ils savaient fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous » et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre eux, contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. On peut parfois se poser des questions, ça m'arrive, je pense que ça vous arrive aussi, concernant nos assemblées, ou concernant d'autres assemblées. Pourquoi sommes-nous si nombreux? Pourquoi y a-t-il de l'opposition? Pourquoi est-ce que l'on ne se réunit pas avec d'autres qui se disent évangéliques? C'est pas parce que nous cherchons à être séparés, mais c'est parce que nous voulons rester fidèles à la vérité, à la révélation de la parole de Dieu. Et Jude nous rappelle cela. Jude nous rappelle qu'il y a une foi pour laquelle il faut combattre. Mais avant cela, il est intéressant de noter que cette lettre de Jude commence et termine avec des paroles réconfortantes pour les croyants. Dès le premier verset, il parle à ceux qui ont été appelés, à ceux qui sont aimés en Dieu, le Père, à ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Vous remarquez que les verbes sont tous au passif, c'est-à-dire qu'ils mettent l'accent sur l'œuvre, non pas de l'homme, mais l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui aime, c'est Dieu qui garde. Nous sommes aimés, nous sommes appelés, nous sommes gardés. Et dès le départ, Jude, en s'adressant aux croyants, en s'adressant aux églises, veut souligner la sécurité du véritable croyant en Jésus-Christ. Il est aimé, celui qui est en Christ, il est aimé de Dieu, il est aimé, il est gardé dans un amour de Dieu. Cela rejoint par exemple ce que l'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 8, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et puis donc, à la fin de cette lettre, il donne sa conclusion en commençant verset 24 à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Jude commence en parlant de celui qui nous a appelés, qui nous aime, qui nous garde, et il termine en nous assurant que Dieu va exercer sa puissance, son omnipotence pour nous garder, pour nous préserver de toute chute, pour nous amener dans la gloire et nous empêcher de nous éloigner de la vérité, de la véritable foi. Et donc, si quelqu'un nous demande comment peut-on être sûr de garder la foi jusqu'au bout, même au milieu des difficultés, la réponse, elle est là. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'aime. C'est lui qui me gardera dans son amour. Il fera, comme l'auteur aux Hébreux l'écrit, il fera en moi ce qui lui est agréable. Et il me présentera, comme Jude dit, il me présentera devant le trône de sa gloire, dans l'allégresse. C'est lui qui fait cette œuvre. C'est lui du début à la fin. Et c'est ce que Jude veut rappeler à ses croyants. Et il aurait voulu, comme il le dit, passer davantage de temps à parler du salut commun. Mais entre le début et la fin, il y a une autre préoccupation. Et la préoccupation de Jude, c'est qu'il appelle, ou il veut que ses croyants et que nous, aujourd'hui, nous soyons vigilants. Il a parlé, comme j'ai dit, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu capable de nous préserver. Mais maintenant, il veut montrer les dangers qui nous entoure et exhorter à combattre pour la foi. Verset 3 est sans doute le verset clé. Bien-aimés, Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La victoire est assurée, puisque, comme il le dit à la fin de sa lettre, et Dieu nous garde par sa toute-puissance, même si la victoire est assurée, cela ne va pas sans combat. C'est comme dans l'armée. Si le commandant en chef promet la victoire, cela ne veut pas dire que les soldats peuvent laisser tomber leurs armes. Et si la promesse de la victoire, nous l'avons en Jésus-Christ, cela donne plutôt du courage dans le combat. Si Dieu promet que son Église sera gardée, sera préservée de la défaite, son but, ce n'est pas que nous laissions tomber l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, et que nous allions au café boire et nous restaurer. Mais plutôt que nous prenions cette épée de l'Esprit et que nous regardions à lui, à Dieu, avec confiance pour trouver la force de combattre et de gagner. Si la sécurité, par contre, promise par Dieu, devient un motif pour justifier une armistice avec le monde ou avec ceux qui nous entourent, on peut à ce moment-là supposer qu'il y a un traître parmi nous. Dieu veut donner confiance à son peuple par la plume de Jude, en leur disant donc que leur foi triomphera. Et il le fait afin justement de les envoyer au combat. Et donc, nous voulons ce matin nous concentrer sur le verset 3 et voir quatre points dans ce verset. Tout d'abord, premièrement, il y a une foi qui a été transmise aux saints. Le terme « foi » ici est utilisé pour décrire les vérités concernant le Seigneur Jésus-Christ, concernant celui en qui nous croyons. Mais il est important de souligner que ce qui compte, tout d'abord, ce n'est pas simplement un ensemble d'idées, un ensemble de choses que l'on pourrait connaître au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui compte dans la vie chrétienne, c'est une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Personne n'est sauvé en acceptant un ensemble de vérités. Le diable croit beaucoup de choses. Il connaît la grandeur de Dieu, il connaît la puissance de Dieu. Il sait que Dieu existe. Ce qui compte, c'est la relation personnelle avec Jésus-Christ. Sans relation personnelle avec Christ, on peut être aussi orthodoxe que possible dans les vérités que l'on professe croire, mais aucune orthodoxie ne peut nous amener dans la présence de Dieu. Le salut est en Christ et en Christ seul. Mais si l'accent que l'on met sur la relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ nous emmène à renier l'existence d'un ensemble de vérités, d'une foi commune, là il y a une erreur. Là il y a danger. Il y a des vérités concernant Dieu, concernant le Seigneur Jésus-Christ, concernant l'homme, concernant le salut, concernant l'Église, concernant le monde, des vérités qui sont essentielles à la vie chrétienne. Si on perd ces vérités, si on tord ces vérités, le résultat ne sera pas seulement une position bancale, théologique, une position théologique bancale plutôt, ou une mauvaise idée que l'on se fait, mais cela résultera aussi dans une espérance qui serait mal placée. La vie par la foi ne peut pas être indépendante de vérité, de doctrine. Quand la doctrine va mal, c'est le cœur qui va mal. Il y a un ensemble de vérités, il y a un ensemble de doctrines qu'il faut garder, et cela est vital. Et Jude le rappelle ici, quand il parle, au verset 3, de la foi qui a été transmise aux saints. Il s'agit ici de ce qui a été transmis aux apôtres, et qui ensuite a été transmis par les apôtres à l'ensemble de l'Église. Ce n'est pas ici quelque chose que l'Église a un jour décidé de mettre sur pied. Non, il s'agit de la révélation de Dieu aux apôtres. Il s'agit ici du conseil de Dieu. Il s'agit, comme Paul écrit en Romains 6, 17, de la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Et il y a quelque chose d'important dans ce passage. C'est que Jude dit que cela a été donné une fois pour toutes. Cette foi qui a été transmise aux saints, elle l'a été une fois pour toutes. Nous vivons aujourd'hui à presque 2000 ans de cette révélation. Et nous sommes entourés de toutes sortes de groupes, de dénominations, de sectes qui prétendent avoir reçu une nouvelle révélation qui viendrait compléter cette parole de Dieu, cette révélation de la parole que Dieu a donnée. Nous avons Mahomet qui prétend avoir cette nouvelle révélation avec le Coran. Nous avons Joseph Smith avec le Livre de Mormon. Nous avons Sun Moon avec le principe divin des Moonites. Et dans les milieux dits évangéliques, nous avons certains qui prétendent parler aujourd'hui et révéler quelque chose de nouveau dans les milieux plutôt pentecôtistes ou charismatiques, mais pas seulement. Et tous les jours, on rencontre des personnes qui considèrent que toute nouvelle idée est intéressante et peut être amenée à remplacer la parole de Dieu. Mais Jude dit ici que cette foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. La vérité que nous devons connaître, elle est révélée, là, elle nous a été donnée une fois pour toutes. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et celui aujourd'hui qui vient en affirmant avoir une nouvelle parole de Dieu qui s'ajouterait à cette révélation, qui s'ajouterait à cette foi qui a été transmise une fois pour toutes, et quelqu'un, c'est une personne qui s'oppose à l'Écriture. Une personne qui s'oppose à Dieu lui-même. La raison pour laquelle nous avons une Bible aujourd'hui, c'est que l'Église, dans les 3e et 4e siècles, conduite bien sûr par Dieu, a été amenée à reconnaître que Dieu a parlé une fois pour toutes. Et que c'est en reconnaissant cela que le canon a été finalisé, le canon de l'Écriture a été finalisé, et que nous avons cette parole de Dieu, que nous avons cette Bible, et que tout est mesuré par rapport à cette révélation que nous avons de Dieu, par rapport à cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et puis une dernière chose par rapport à ce premier point, c'est que Jude parle de foi au singulier, pas au pluriel. Aujourd'hui, on entend différents théologiens qui essayent de parler, de dire, de diviser entre les différents auteurs, de dire que Paul peut-être est un peu plus sévère que le Seigneur Jésus-Christ, donc que l'enseignement que nous avons dans les évangiles, que Paul était plus strict, que Pierre était encore différent de Paul, etc. Ils essayent de montrer les divergences pour essayer de diviser l'Écriture. Mais s'il y a effectivement diversité au niveau des auteurs, il n'y a pas une absence d'unité, bien au contraire. L'apôtre Pierre, par exemple, parle de ce que Paul a écrit. Il parle de choses difficiles que les insensés essayent de tordre, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais il fait référence à ce que Paul a écrit dans ses lettres. Il n'y a qu'une seule foi apostolique, il n'y a qu'un ensemble de doctrines que l'on retrouve partout dans le Nouveau Testament. On ne peut pas et on ne doit pas y rajouter quoi que ce soit. Une seule foi a été transmise aux saints. La deuxième chose que Jude nous dit ici, c'est que c'est une foi qui mérite que l'on combatte pour elle. Il y a une vérité pour laquelle on doit être prêt à mourir. C'est peut-être difficile aujourd'hui de concevoir une telle idée, mais cela a été une réalité dans le passé. Tout au long de l'histoire de l'Église, on peut penser aux persécutions. Il y a encore des persécutions de certaines parties du monde aujourd'hui. Il y a eu les guerres de religion, il y a eu des martyrs, des personnes qui ont enduré des souffrances, qui ont enduré même la mort, parce qu'elles défendaient cette foi apostolique. Jude parle ici de, comme il le dit, il a voulu écrire au sujet de notre salut commun. Et quand la foi, quand les doctrines, quand l'ensemble des vérités est en danger, c'est tout le salut, en fait, qui est en danger. Dans ce sens que si l'on perd la vérité, si l'on perd ce message du salut, de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, on perd le chemin du salut. Et les personnes pensent avoir l'assurance en bâtissant une espérance sur des œuvres, ou en bâtissant une espérance sur le fait qu'ils possèdent les meilleurs, soi-disant, théologiens, ou meilleurs professeurs, ou les meilleurs livres. Comme j'ai dit au début, l'espérance, elle est mal placée. Ici, les apôtres, les réformateurs, tout au long de l'histoire, étaient prêts à mourir pour la foi, pour cette foi, parce qu'ils voulaient que le message du salut par grâce, par la foi en Jésus-Christ seul, soit préservé. Ils étaient préoccupés à la fois pour le peuple, pour présenter ce message au peuple, pour que ce message soit toujours annoncé au peuple, mais aussi préoccupé par la gloire de Dieu. Et il nous faut retrouver un sens des valeurs, des vérités, des doctrines bibliques, de saisir la profondeur, la beauté, la valeur des vérités, de ces vérités que nous avons dans la parole de Dieu, afin d'en être pleinement convaincu et d'être prêt, s'il le faut, à mourir pour cette foi et tout du moins à combattre pour elle. La troisième chose que l'auteur dit, que Jude dit ici, c'est que cette foi qui a été annoncée, qui a été transmise au saints une fois pour toutes, elle est menacée dans l'Église. Les pires ennemis de la doctrine chrétienne sont les chrétiens professants. Ce sont des personnes qui n'acceptent pas cette révélation de Dieu, de cette foi transmise au saints une fois pour toutes. Disons par exemple ce que l'apôtre Paul a dit au responsable de l'église d'Éphèse en Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, versets 29 et 30. Il s'adresse donc aux anciens de l'église d'Éphèse avant de les quitter. Et il dit ceci, verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Des loups. Des loups qui déforment la vérité. Ce sont des chrétiens professants. Ce sont des responsables. Ce sont des conférenciers, des pasteurs, des enseignants dans certaines formations, certains lieux de formation. Jude lui-même rejoint l'apôtre Paul au verset 4. Il dit ceci, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Certaines personnes, par exemple, qui disent que puisque le salut est par grâce, alors ça ne fait rien, la manière dont on vit. On peut continuer à vivre dans le péché. De toute façon, Dieu sauve par grâce. Pas besoin de veiller à notre manière de vivre. Il transforme la grâce de notre Dieu en dérèglement. Il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour aujourd'hui. Déjà Jude le voit arriver dans l'Église au 1er siècle. Paul a mis en garde au 1er siècle l'Église d'Éphèse. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Jude le rappelle au verset 17, « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quelque chose qui a déjà été annoncé par les apôtres. Il vous disait, verset 18, « Que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. » Et quand on relit les lettres de l'apôtre Paul, par exemple, on voit que ces lettres contiennent des points de contention avec des croyants ou des professants, des chrétiens professants. Et cela donc ne devrait pas nous surprendre si aujourd'hui nos combats sont en grande partie avec des chrétiens professants qui renie cette foi, qui renie ces vérités qui nous ont été transmises une fois pour toutes. Cette glorieuse réalité que nous aimons méditer et revenir sans arrêt de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, libre, souveraine, sans que l'homme puisse ajouter quoi que ce soit de sa part. Un salut entièrement de la main et de l'œuvre de Dieu. Mais la quatrième chose que Jude nous rappelle ou nous dit ici, c'est cette exhortation adressée à tout croyant. La lettre n'est pas adressée au pasteur, elle n'est pas adressée aux responsables d'église, elle n'est pas adressée à certaines catégories de croyants, elle est adressée à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Et il dit deux choses à la fin de cette lettre. Il dit tout d'abord, au verset 20 et 21, il nous donne un moyen pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, on retrouve l'expression, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Pour devenir une église qui combat pour la foi qui a été révélée une fois pour toutes, il faut devenir une église qui est solidement bâtie sur cette même foi. Il faut être bâti sur cette même foi. Cela veut dire que nous sommes amenés à la méditer, à étudier cette révélation de Dieu, à réfléchir. Il y a tant de choses à apprendre. Tant de choses à découvrir dans cette parole de Dieu concernant l'homme, concernant l'Église, concernant Dieu, concernant le Seigneur Jésus-Christ, concernant le salut que nous avons en Christ. Il y a tant de choses. La meilleure défense de la foi, c'est bien la connaître, c'est bien l'aimer. Et l'auteur nous rappelle que la prière est aussi un élément indispensable. Cela veut dire pas seulement tomber dans une routine de dire nos prières, mais véritablement apprendre à intercéder, à combattre. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que nous devrions rechercher, à combattre dans la prière pour que la vérité soit continue d'être annoncée et continue d'être vécue. La deuxième chose qu'il dit, verset 22-23, « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » La première, la deux petites choses, la première, c'est que combattre pour la foi implique parfois un effort intellectuel pour changer la personne ou changer la façon de penser d'une personne qui conteste ou qui doute, argumenter avec elle. Ou comme Paul écrit, il me semble, aux Thessaloniciens, cherchant à convaincre les Thessaloniciens. La deuxième chose, ici, c'est combattre implique aussi ce que j'appellerais un sauvetage moral, c'est-à-dire aller après quelqu'un qui s'est créé un chaos, un vide par ses idées qui étaient fausses et qui s'est mis dans une telle situation qu'il ne sait pas s'en sortir, aller après elle, la ramener, même si on est haïssant ce que cette personne fait, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair, sauvez-en d'autres en les arrachant au feu. Ces deux choses, l'effort intellectuel, l'effort aussi pour sauver quelqu'un sur le plan moral, vont quelque part ensemble. Combattre pour la foi n'est pas seulement un exercice académique, ce n'est pas simplement un exercice intellectuel. La source de toute mauvaise doctrine, ce n'est pas la faiblesse de l'esprit de l'homme, c'est l'orgueil de son cœur. Et c'est pour cela que Jude donc nous exhorte à dépendre de la miséricorde de Dieu, à nous réjouir de cette sécurité que nous avons en Christ, de se savoir aimé, de se savoir gardé pour l'éternité, pour toujours, et en nous appuyant sur cela, de combattre pour cette foi qui a été révélée une fois pour toutes. Le meilleur argument pour cette foi, en fait, c'est lorsque nous la vivons, lorsqu'elle transparaît dans notre vie quotidienne. L'apôtre Pierre écrit ceci dans sa première lettre au chapitre 3 et verset 15. « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et puis verset 16, « Ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » La manière de combattre est aussi importante que le contenu des arguments que l'on avance. La logique est bonne, peut être bonne, mais il ne faut pas que notre vie envoie un message qui lui soit contraire. Veillons. Il y a quatre choses, nous dit Jude ici. Il y a une foi, il y a des vérités qui ont été transmises aux saints une fois pour toutes, qui ont été transmises aux apôtres. Les apôtres nous les ont transmises et nous les avons ici dans la parole, cette parole de Dieu. Et cette vérité nous a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre révélation. C'est deuxièmement une foi qui mérite que l'on combatte pour elle. Certains l'ont fait avant nous et ont payé de leur vie. Puisque si l'on perd ce message de salut par grâce, cette grâce que Dieu fait en Jésus-Christ, on perd le salut, on perd toute bonne nouvelle. Il n'y a plus de bonne nouvelle à annoncer. Il n'y a plus d'évangile. C'est une foi qui mérite que l'on combatte pour elle. C'est une foi, troisièmement, qui est menacée. Et les menaces les plus importantes ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de ceux qui professent être chrétiens. Mais qui, en fait, renient cette vérité et renient le Seigneur Jésus-Christ. Et quatrièmement, l'exhortation est adressée pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux responsables, mais à tout croyant. C'est notre responsabilité à tous de combattre pour cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Que Dieu nous aide, à, non seulement à combattre, mais qu'il nous aide aussi à grandir dans notre connaissance de ces vérités, dans notre connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, dans notre connaissance de ce salut parfait que nous avons en Christ, afin que, comme Pierre nous le dit, nous puissions répondre à ceux qui nous posent des questions, que nous puissions leur dire, voilà ce qui m'anime, voilà ce qui, cette vérité en qui je crois, voilà celui en qui je crois. La vérité, cette foi, qui nous a été donnée une fois pour toutes. Que Dieu nous donne la grâce de saisir cette foi et qu'il nous donne aussi la grâce de combattre jour après jour dans ce que nous disons, dans ce que nous vivons, afin que nous soyons véritablement ces témoins, ces ambassadeurs, les ambassadeurs de Christ dans un monde de ténèbres. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.